Merci à tous nos partenaires qui ont participé à cette émission.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, chers amis, merci le public, bonsoir à vous, merci d'être là. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Backseat, on va parler de politique et je suis avec des personnes extraordinaires autour de ce plateau. Je suis avec Usul, salut Usul.
Bonsoir.
Content de te retrouver Usul,
oui.
On te retrouve sur Blast pour l'émission Rhinocéros qui sort
ouais.
Chaque dimanche.
Ça sort de ouf, mais pas là, pas ce dimanche.
Ah, pas là.
Non, là il y a une semaine de break. En fait, c'est 3 épisodes par mois, donc forcément il y a un break de temps en temps.
Et là on tombe sur le break au moment
là,
où je le
break.
Dis. Mais on te retrouve un vendredi par mois dans une autre émission qui s'appelle La France a peur.
Tout à fait.
Toujours sur Blast.
Tout à fait, c'est en stream sur la chaîne Twitch de Blast. Et la semaine dernière, on recevait dans une première partie Aurélien Sartou, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT, etc. Donc vous avez beaucoup entendu parler parce qu'il y avait eu Bolloré et Hanouna qui ont été reçus en commission. Et on a reçu en deuxième partie Clément Viktorovitch.
Ouais,
Victor. De ces trucs rhétoriques, politiques, machin. Mais du coup, le replay sur la chaîne de Blast, c'est 2 fois 1 heure quand même, donc allez-y.
On a à bouffer, hein, ça c'est cool.
Oui.
Donc très très cool. On est également avec Latifa. Salut Latifa.
Salut.
Très content de te retrouver, Latifa. Écoute, ça va très bien. Je suis d'autant plus content de te retrouver que je vais beaucoup mieux. Latifa, tu es la directrice du mouvement.
C'est ça.
Que tu nous représentes encore une fois ?
Oui, c'est une organisation de mobilisation citoyenne. Et on agit sur des thématiques diverses, mais toutes progressistes, donc antiracistes, écologiques, sociales. Et voilà. Voilà, on fait des pétitions, des outils en ligne pour permettre aux citoyens de se mobiliser.
Et bah très très cool, on va être rejoint dans quelques minutes par Lorraine qui a un tout petit peu de retard et qui va nous rejoindre sur le plateau. Avant qu'on passe à l'actualité de la semaine, je vous rappelle que le mardi 26 mars a lieu un événement exceptionnel, c'est les 2 ans du mariage de Latifa.
Et c'est vrai,
c'est
une vraie information.
Cette information est vraie, mais du coup tu vas rater ton mariage pour venir à la projection.
Mon anniversaire.
Ton anniversaire de mariage, pardon.
Ça va. Mais effectivement, j'ai cédé à cette institution bourgeoise. C'est mon côté conservateur. Et du coup,
tu le fais pas.
Je l'ai fait. Ouais, voilà. Je l'ai fait une fois, mais je le fais plus. Non, mais j'y serai. Donc, ça montre à quel point je suis corporate et j'aime Backseat et je suis impatiente d'être au 26 mars pour découvrir le film.
Et ça me touche beaucoup que tu sois avec nous. Le 26 mars, au MK2 Bibliothèque à Paris, aura lieu l'avant-première du film, du documentaire Backseat, l'année 2023, l'année où tout s'est embrasé. Vous pouvez acheter vos places, il en reste qu'une quarantaine, je crois, sur le site de MK2. Vous aurez le lien dans le chat et dans la description de cette vidéo.
Moi, je vais peut-être pouvoir venir, finalement.
Mais j'ai cru comprendre, et j'en suis très heureux que tu puisses venir.
Ouais.
Et,
mais juste à la soirée d'après, moi.
Oui, voilà, parce que après le film, après la projection, après la projection, on se donne rendez-vous dans un bar à Paris qui s'appelle Le Gourou, qui va nous accueillir en nous faisant notamment un burger spécial Backseat. J'ai très très hâte de voir à quoi ça va ressembler ce truc. Vous pourrez vous faire dédicacer aussi le livre de Léa Chamboncel, vous pourrez l'acheter sur place aussi, et vous pourrez acheter la magnifique gourde Backseat. On en a des exemplaires qui pourront être vendus sur place. Puis on va surtout boire des coups et faire la teuf, hein. Il y a un moment, c'est aussi pour ça qu'on a réservé ce bar. Hop là. Lorraine, comment tu vas Lorraine ?
Ça va, mis à part que mon TER était en retard, mais sinon ça va.
Mais écoute, on a vu ça, c'est pas très grave, t'inquiète pas. Tu es journaliste Lorraine, spécialisée en histoire et en politique, et tu es la cofondatrice de l'association La Cité des Chances.
Ouais, exactement, et on fait en sorte que les jeunes de banlieue s'intéressent à la politique, en gros, en très bref.
Cool, très très cool. Alors, est-ce que vous avez des réactions sur la chronique de Vincent ? C'est un peu flippant, c'est gouvernement qui essaye de s'en prendre à des applications, ou alors au contraire, c'est plutôt flippant, c'est gouvernement qui, via des applications, mène des opérations d'espionnage ?
Bah déjà il y a un truc, moi ce que j'ai lu aussi c'est que TikTok est aussi soupçonné de pas foutre les mêmes algos selon les pays.
Ouais, j'ai vu ça
et
aussi.
Nous foutre des trucs plus abrutissants à nous que aux Chinois apparemment. Non, c'est pas, t'as pas entendu ça.
J'ai entendu le même, mais j'ai entendu le debunk derrière aussi. Disant que c'est n'importe quoi.
Oui, l'idée selon laquelle. C'est n'importe quoi, mais.
TikTok en Chine, c'est éducatif, alors que chez nous, c'est pour nous abrutir et que du coup, ce serait une tentative de.
Oui, c'est ça. Il y aurait plus de contenu éducatif chez eux et nous, plus de trucs débiles, quoi. Donc.
Plus de trucs débiles pour nous abrutir collectivement et que ce serait une espèce de stratégie. C'est un peu complotiste, hein, comme.
Complotiste. Non, ce serait du travail bien fait. Je veux dire, je ferais la même chose.
Non mais l'idée de la volonté d'un État d'abrutir la population d'un autre État via une application mobile pour les jeunes, je sais pas.
Bah, moi ça me paraît crédible.
J'aime
bien ça comme théorie, moi.
Latifa, Lorraine.
Moi déjà je serais dépitée parce que je passe ma vie sur TikTok.
Ah ouais, grosse utilisatrice.
Ouais. Okay. Franchement, depuis le Covid, je me suis découvert TikTokeuse. J'ai même poussé la Fondation pour les moins d'esclavage à se mettre sur TikTok et à poster les portraits qu'on faisait notamment de personnalités afrodescendantes qui ont marqué l'histoire de France en vidéo, parce que clairement quand j'en regardais les stats, c'était très vieux, très universitaire, etc. Donc on s'est dit voilà. Le fait que ce soit interdit aux États-Unis, enfin, si ça arrive à être interdit, ça présume rien de bon, je trouve, pour nous, parce que déjà il y a pas mal l'Union européenne qui dénonçait en fait la fuite de données sur TikTok, ils ont d'ailleurs interdit leurs fonctionnaires de les utiliser sur leur téléphone. Donc voilà, quelle place on aurait nous en tant que Français? Quel avis on aurait sur TikTok, je sais pas trop, mais ça présage rien de bon, parce que je trouve qu'on parfois on est un peu déçus vers des États-Unis, on va pas se mentir.
Bon,
non, je sais pas. Autant je peux comprendre les règles de restriction d'usage d'une application pour les militaires déployés sur des théâtres d'opération, pour des fonctionnaires dans un certain nombre d'administrations. Je peux comprendre que les gens du ministère de la Défense, on leur laisse pas installer n'importe quoi sur leur téléphone.
Mais il y a des journalistes aussi, du coup.
Alors, je suis pas pour que l'État dirige que les journalistes ont dans leur téléphone. Je suis pas franchement de ce genre-là, mais j'ai beaucoup plus de mal à comprendre le côté en population générale, c'est-à-dire la crainte qu'il y ait de l'espionnage en population générale. En plus, les États-Unis, pardon, mais avec la NSA, c'est les premiers espions à espionner absolument
bien sûr.
Toute leur population. Il y a une espèce d'hypocrisie. Il y a une espèce d'hypocrisie un peu bizarre.
Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, je pense que s'ils voulaient contrer ça aussi, ils pourraient le faire. Enfin bref, c'est marrant. Sans être encore une fois complotiste, mais presque que c'est juste une partie de ce.
Eh bien, on est complotiste ce soir. Allez.
Non, pas moi.
mais oui, c'est un peu ce qu'on montre, mais c'est toujours intéressant, ces histoires de réseaux sociaux appliquées à la géopolitique finalement. Et aussi de voir. Est-ce que, en fait, on se dit quand le monsieur que Vincent a montré, quand il disait oui, mais en fait, les États-Unis le font déjà. Mais est-ce qu'on n'a pas un petit truc de suspicion parce que la Chine et parce que, voilà, on est toujours un.
Il a raison. Faut se méfier des espions chinois. Moi, j'en parle souvent. J'ai déjà rencontré des espions chinois.
Non, mais pas que.
C'est vrai, t'as déjà rencontré des espions. Oui. Ils sont comment?
Je vais pas développer.
D'accord, ok.
Mais en fait, les Chinois, ils gardent quand même beaucoup la main sur leurs expatriés, étudiants ou je sais pas quoi. Ils leur demandent un peu des comptes de temps en temps. Et on pense aussi aux Ouïghours, par exemple, qui seraient venus en France faire des études ou je sais pas quoi, dont ils gardent pareil. Ils gardent aussi un peu la main sur leur famille. De manière générale, accumuler toute cette data sur TikTok leur donne aussi un pouvoir, une emprise, pourquoi pas des renseignements sur ce qui se passe sur le pays, donc y compris en France. Et en effet, les journalistes, pareil, ça peut leur donner un levier, en fait, sur les journalistes.
On continue.
Ou trouver leurs sources et tout.
Oui, c'est chaud, quoi. On continue la discussion avec une tribune qui est sortie cette semaine en France dans le Figaro Vox en l'occurrence. C'est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui a proposé un rationnement d'Internet. Elle propose de rationner Internet pas plus de 3 gigas par personne et par semaine. Pourquoi ? Parce que selon elle, Internet aggraverait la plupart des problèmes de la société, je la cite. Tous les grands sujets, écologie, discrimination, inégalité, harcèlement, éducation, savoir et culture sont liés à Internet. Ce dernier y est moins souvent une solution qu'un facteur aggravant. Du coup, elle pose la question, avons-nous tant besoin d'Internet que cela ? Et elle propose donc cette proposition assez radicale de rationner carrément Internet. Quelle vision d'Internet est-ce qu'elle nous donne là, Najat Vallaud-Belkacem ?
J'ai envie de parler comme une vieille politique qui pose les bons problèmes et donne pas la bonne solution.
C'est vrai.
Mais en vrai, c'est ça, en fait. Tout son constat, il est, enfin, voilà, il y a pas, je pense qu'on peut pas le contredire en étant complètement honnête et de bonne foi. Et après, c'est juste sur, enfin. Non, mais rationner à 3 gigas, enfin, ça n'a pas de sens. Tout de même, c'est quand on prend l'argument écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que les usages du numérique, c'est 2,5% de l'empreinte carbone en France. Donc, c'est pas non plus énorme, c'est plus la fabrication de ces outils qui est un désastre écologique. Et après, en fait, c'est juste comment on éduque aussi les plus jeunes aux écrans, quel investissement on met dans l'éducation aux médias, l'éducation aux réseaux sociaux au sein de l'éducation nationale, comment on apprend, parce que de toute façon, ça prendra encore plus de place à l'avenir, mais comment on prépare les générations suivantes. Mais on va pas clairement, enfin, je me vois pas dans, alors c'est complètement une dystopie demain de dire, allez, t'as eu tes 3 gigas.
Comme à l'époque d'Arwell.
Ou frauder des gigas, tu vois.
T'as plus de crédit sur ton téléphone, bah tu téléphones plus. Non, mais Alors, on pourrait un peu facilement, surtout ici sur Twitch, balayer d'un revers de main cette proposition de la Jade Vallecassem en disant que c'est n'importe quoi et qu'elle est toute seule à penser ça. En fait, elle n'est pas toute seule à penser ça. Ça monte jusqu'au sommet de l'État. Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse de rentrée en janvier dernier, avait lui aussi dit qu'il allait mener une action résolue avec le gouvernement pour le temps d'écran. Il y a trop de, on passe trop de temps devant les écrans. Le temps d'écran, c'est important, etc.
Et ils ont filé du pognon et du pognon à l'éducation nationale pour qu'ils achètent des tablettes à Microsoft pendant des années.
Et là, ils sont en train de dire c'est les collectivités locales, mais
oui, bah,
je vois ce que tu veux dire.
Oui.
Mais non, je vois ce que tu veux dire. Et puis, il y a une hypocrisie, effectivement, à utiliser les réseaux sociaux tout en tenant des discours qui visent à les limiter, mais en même temps.
Oui, elle le dit, ça, que de toute façon, elle-même utilise beaucoup les réseaux sociaux.
D'ailleurs, elle tacle les élus. Elle tacle les élus, hein. Elle tacle les élus qui cessons de tomber dans le piège de tous ces élus qui tonnent contre la jeunesse et sa dépendance aux écrans, mais se ruent sur leur téléphone au cours des séances à l'Assemblée, au Sénat ou ailleurs. Ça, je suis assez d'accord avec elle.
Mais d'ailleurs,
je suis assez d'accord avec elle sur le discours anti-jeune qu'on entend de la bouche de beaucoup d'élus ou beaucoup de responsables politiques et qui, derrière, sont les premiers à aller s'amuser sur TikTok.
Mais d'ailleurs, elle le dit, elle l'admet, elle dit « nous avons un problème », elle aussi. Mais j'allais dire comme Latifa, moi, c'est-à-dire vraiment, on voit très bien que dans les foyers où on veut donner, où on a le temps de donner, on sait comment donner une bonne éducation aux gamins pour qu'ils réussissent, etc. Il y a déjà des privations d'écran, je veux dire, les classes supérieures, en fait, savent déjà un peu faire, le font déjà un petit peu. La question, en effet, c'est celle de l'éducation, c'est que fait l'éducation nationale ? Est-ce qu'il y a des cours d'éducation, en effet, aux médias, des cours Il va falloir éduquer les parents, il va falloir éduquer les enfants, c'est-à-dire que même pourquoi pas en effet apprendre aux parents. En fait voilà, il y a des retards, commence à y avoir des retards cognitifs, des retards linguistiques, parce que les écrans très tôt ça fait beaucoup de dégâts, mais pas seulement parce que le gamin regarde l'écran, mais aussi parce que les parents regardent l'écran et que ça a diminué au fur et à mesure le temps d'échange, de dialogue pendant lequel les gamins vont apprendre à parler en fait, et à parler correctement. Donc la question, va falloir éduquer tout le monde, pas seulement les enfants et pas seulement en privant d'écran. Il va falloir repenser un petit peu, un petit peu tout ça. Ouais.
Moi, je suis un grand défenseur des cours d'éducation aux médias. J'en ai fait moi-même. J'ai été formateur, militant quand j'étais lycéen et étudiant. Donc, je cracherai jamais là-dedans. Je constate qu'il y a pas de pognon. Je constate qu'il y a, de toute évidence pas de pognon. Et puis que par ailleurs, sur la limitation du temps d'écran, c'est beaucoup à la maison que l'écran pose problème plus que sur le temps scolaire, parce que sur le temps scolaire, les jeunes, ils n'ont pas le droit au portable dans les couloirs de toute façon. Pas dans les classes et parfois dans les couloirs, ça dépend des établissements. Mais comment est-ce que tu fais ? Comment est-ce que l'éducation nationale pourrait limiter le temps d'écran à la maison ? Ça devient compliqué. Enfin, ça devient compliqué. Ce serait nécessaire, effectivement, de que toute la communauté éducative, les parents compris, soit partenaire de cette régulation. Lorraine.
Mais moi, je suis étonnée pour justement une ancienne ministre de l'éducation d'être et en plus, classée à gauche. Bon, ça se discute. D'être là en direct à l'interdiction, le rationnement, plutôt que de prôner une éducation. Enfin, moi, c'est vraiment le truc qui m'a frappé en premier. Je trouve ça vraiment étonnant et je sais pas trop.
Ségolène Royal.
Ouais. Non, mais oui, y compris à gauche, des discours anti-jeunes, hein, ça existe. Pour le coup, Najat Vallecassem, je la connais pas. Je constate qu'elle a été ministre pendant de nombreuses années. Peut-être que ça l'a déconnectée d'Internet, qu'elle est passée complètement à côté de la culture web. Parce que nous aussi, on est des enfants de la culture web. Moi, quand tu me parles d'Internet, je vois pas ça comme un danger. Je veux d'avoir ça comme un formidable espace de créativité extraordinaire avec des gens qui me font rire, des gens qui m'émeut.
Oui, mais comme la télé, tu vois, la télé, c'est super. Des fois, il y a des grands films, il y a parfois de bonnes émissions. On peut regarder C'est ce soir. Et pour autant, des gamins de 3 ans mis devant la télé avec un DVD parce que t'as pas le temps aussi et que tu sais que ça va l'occuper. Et ça aussi, ça provoque aussi des retards. La question, c'est aussi celle du temps libre. Est-ce qu'on a encore le temps de s'occuper de nos enfants correctement ? Est-ce qu'on a encore l'énergie de s'occuper de nos enfants correctement ? Est-ce qu'on n'est pas bouffé aussi par... peut-être la semaine de 30 heures, ça pourrait être aussi une réponse. Plus de moyens pour l'éducation nationale, plus de temps pour s'occuper de ses enfants. Voilà, c'est ça la question. C'est pas la question à pas couper les gigas aux gens, quoi.
Si je me fais l'avocat de Najat Vallecassem, il y a aussi un truc qu'elle ne soulève pas dans sa tribune, pardon. C'est la question énergétique. Les émissions de gaz à effet de serre provoquées par le numérique sont estimées entre 3 et 5% des émissions globales. Je rappelle que les avions, c'est 3%. Donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que l'avion. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas limiter le temps d'écran et le temps d'usage d'Internet ou la quantité de gigaoctets par personne pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Ah, faut arrêter le Bitcoin déjà. Voilà. Non, mais il y a des trucs aussi, voilà.
Non, non, c'est vrai, je suis d'accord.
Peut-être qu'il faut penser à nos usages d'Internet. Mais à un moment, il y a un moment où la question s'est posée, c'est tiens, la 5G, est-ce qu'on a besoin de la 5G? Parmi les gens qui étaient contre la 5G, il y avait des gens qui disaient aussi, bah oui, ça va consommer plus. Du coup, ça va nous forcer aussi, nous, à consommer plus d'Internet. Enfin, ça va faire tout ça. Et il y a des décroissants qui s'intéressaient à la 5G en se disant, bon, pas seulement parce que ça faisait des ondes et qui nous rendait fous, hein, mais qui nous contrôlait et qui nous mettait des vaccins dans le corps. Mais aussi parce que il y avait cette question de sobriété. Mais la 5G, on n'a pas eu de débat dessus à ce moment-là. Le gouvernement a dit on va pas faire les Amish ou je sais pas quoi. Enfin, c'est Macron qui avait dit ça.
Mais le modèle Amish, je n'y crois pas.
Donc c'est bien de se réveiller maintenant et de dire maintenant on a de la 5G, mais on va couper les gigas aux gens. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, puis après même elle donne des conseils dans sa tribune, mais enfin après voilà, c'est comme
qu'est-ce
tu
qu'elle
l'utilises
conseille
du quotidien. Elle dit, par exemple, si vous avez une question à poser à un collègue, allez le voir, ne lui envoyez pas un mail. Écrivez vos mails sur Word au lieu de les écrire sur la boîte directement.
Wow. Oui, je l'ai vu celle-là.
Je me suis dit, alors par contre, là...
Écrivez-le avec un crayon, un papier aussi.
Et elle dit, on peut coder avec une feuille et un stylo.
Oui, coder sur du papier. Oui. Alors, wow. Comment te dire?
On peut écrire son mail et le scanner sur des feuilles à carreaux.
Non, mais voilà, en fait, j'étais un peu. Au début, je me disais, tiens, pourquoi pas, le constat est bon, la proposition, voilà. Et après, quand elle donnait des exemples, je me dis, je me vois pas, au lieu d'envoyer un mail à un collègue, être au-dessus de lui, toutes les.
Je suis d'accord, ça me paraît un peu absurde. Bon, la réflexion mérite d'être posée, elle est intéressante. Je le dis d'autant plus facilement qu'on est sur Twitch et qu'on émet un flux en haute définition à plusieurs milliers de personnes qui nous regardent en simultané. Ce n'est pas neutre en carbone, ce n'est pas. Alors, on essaye d'éviter de vous abrutir. Vous nous direz hein, si ça marche. mais donc voilà. Donc, interrogeons-nous là-dessus. On continue notre discussion toujours autour du même thème à peu près sur la question des médias avec les auditions de Bolloré et d'Hanouna. Une pétition qui a été lancée par Le Mouvement demande le non-renouvellement des concessions de C8 et de CNews par l'ARCOM qui doit intervenir cette année en mettant en avant 34 interventions de l'ARCOM en 2 ans pour des faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d'incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, d'un manque d'honnêteté dans l'information ou encore en raison de la prépondérance du temps de parole accordé à l'extrême droite en période électorale. Fin de citation. Tu peux nous en parler de cette pétition?
Oui, ouais. On l'a lancée avec la députée Sophie Taillé-Paul-Lian, avec laquelle, enfin voilà, qui s'intéresse aux questions médias, etc. Et en fait, c'est parce que, on s'est rendu compte qu'en fait, avec cette succession de sanctions, de mises en demeure, sanctions économiques, etc., ça pouvait pas continuer comme ça. Donc cette année, en fait, voilà, je sais pas si vous savez, mais les chaînes, donc les canaux TNT sont attribués à des éditeurs avec une fréquence, je crois, tous les 4 ou 5 ans. Et donc là, C8 et CNews, les conventions se terminent. Et donc ces conventions fixent un certain nombre d'obligations, de respect notamment déontologique. Force est de constater que C8 et CNews les respectent pas complètement. Et en fait, dans ce cas de figure-là, comment on fait? Il y a des gens qui nous ont dit, oh, mais c'est trop extrême de demander le non-renouvellement de l'agrément de ces deux chaînes-là.
Moi, je trouve pas.
Merci.
C'est eux qui sont trop extrêmes.
Mais à un moment donné, en fait, quelle est la solution? C'est de dire, ça ne va pas être renouvelé, ou alors le système tel qu'il fonctionne par l'ARCOM et la manière dont on sanctionne des chaînes quand elles ne respectent pas leurs conventions, ça ne fonctionne plus. Alors, je ne sais pas, il faut dire, au bout de 10 sanctions là, sur ce domaine-là, il va se passer ça. Enfin, c'est vraiment, en vrai, ce système-là, il ne s'applique pas pour C8 et CNews. Ça ne fonctionne pas pour ces deux chaînes-là, parce qu'en fait, il y a eu tout un tas de sanctions et il n'y a rien qu'à changer, en fait, dans leur ton, leur manière de faire du journalisme. Il n'y a rien qui a changé. Donc voilà pourquoi.
Vous les avez regardées, ces auditions?
Je les ai regardées.
Toi, tu les as regardées, Usul, t'as regardé.
Bien sûr.
Lorraine aussi, t'as regardé.
Regardé le
Vous en avez pensé quoi de Vincent Bolloré, par exemple? Vous l'avez trouvé comment, Lorraine?
Ennuyeux. Enfin, il nous a grave raconté sa vie. Il a perdu du temps. Et en fait, plus je regardais, plus je me disais, mais il se fout de nous, en fait. Je me disais, mais on est là. Et en fait, et ce qui m'étonnait aussi, et j'ai regardé du coup sur la chaîne Twitch de Blast, où t'en parlais, Usul. En fait, il y avait aussi le président de la commission qui ne le relançait pas et qui le laissait raconter sa vie.
Quentin Bataillon.
Donc j'étais là,
L'REM.
Mais c'est tout est normal.
C'était déjà le cas au Sénat. On avait remarqué que les sénateurs étaient mous du genou face à Bolloré. C'est censé être une commission d'enquête. Quand vous voyez comment ça se passe, les commissions d'enquête aux États-Unis, Aux États-Unis, ça envoie le paquet. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. En France, c'est limite de la déférence. Merci d'être là, merci d'avoir accepté de venir.
Ouais.
C'est ça.
Wow. Alors, il y a plusieurs choses.
Usule.
Ça tient aussi au format qui a été décidé, qui était un format en temps contraint. C'était 2h30 pour Hanouna, par exemple. Et au bout de 2h30, il part. Il y a des commissions d'enquête, en effet, au Sénat, où ils n'avaient pas donné d'heure, pas donné de limite d'heure. C'est on vous pose des questions, vous partirez quand on aura fini. Donc là, la stratégie de Bolloré, qui est était de « Eh ben, je raconte ma vie, je raconte ma famille, mes ancêtres, la démocratie coule dans mes veines », il nous a sorti quand même. C'est que... Non, « coule dans mon ADN », ce qui est encore plus bizarre physiologiquement. Mais il a gagné du temps de fou, et du coup, une fois que c'était fini. Et ben, il faudrait peut-être faire en effet un peu autrement.
Et donc, ils ont abordé les sujets qui fâchent sur le renouvellement des agréments. Parce que il y a des citations qui sont sorties. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les regarder, ces auditions. J'ai vu qu'il avait défendu la contestation du droit à l'IVG sur ses antennes. Mmh. Mmh. Il avait également pris la défense de. Tiens, d'ailleurs, en plus, excuse-moi, on le dit dans l'oreillette, mais il y a un extrait qu'on a. Je vous propose qu'on regarde un extrait de Vincent Bolloré pendant son audition.
Ouais.
Je ne suis jamais intervenu dans les contenus. En aucune façon. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Pourquoi est-ce que CNews est un succès ? Voilà, parce que CNews raconte la vérité.
Oui.
Parce que CNews raconte la vérité. Donc voilà, vous le voyez se contredire lui-même, une partie qui dit non, je n'interviens jamais dans les antennes, et l'autre partie qui assume complètement de dire mais en fait, on ne diffuse que ce que je crois.
Mais je suis complètement d'accord avec Latifa. C'est-à-dire, là, on est face à un mur. On est face à quelqu'un qui va pas changer ses méthodes, qui va pas changer ses antennes. À un moment, il va falloir dire stop. Je veux dire, il y aurait une usine de pizza où sanitairement ça pose problème et les gens tombent malades. On ferme l'usine, on arrête tout. Ou alors vous changez les machines, vous changez les règles d'hygiène et à ce moment-là, vous aurez le droit de rouvrir. Mais là, en l'occurrence, on a l'occasion de pouvoir leur dire. Bon, stop. En fait, il y a eu je sais pas combien de mises en garde. Vous payez les amendes. Le problème, c'est que Bolloré paye les amendes. Je veux dire, tant qu'il peut payer, il s'en fout, il va continuer. D'ailleurs, C8 et CNews sont déficitaires depuis leur lancement.
Ouais.
Chaque année, ça perd de l'argent et Bolloré remet au pot. C'est-à-dire qu'il est en train de payer, très concrètement, il paye énormément d'argent pour avoir une influence sur le débat public en France.
Et puis,
à un moment, faut dire stop.
Et puis au-delà de ça, c'est qu'il faut préciser qu'il bénéficie de canaux publics, en fait, gratuits.
C'est ça le
sujet.
C'est ce que j'allais expliquer.
C'est qu'en fait, c'est pas une question de « ils n'ont plus le droit de s'exprimer nulle part ». Non, c'est que « est-ce qu'on accepte que ces propos-là soient tenus via des canaux publics et gratuits octroyés par une autorité administrative indépendante ?»
C'est la grande particularité du fonctionnement de l'audiovisuel en France, c'est qu'un canal TNT pour la télévision ou une... fréquence radio pour la bande FM, ce sont des canaux qui vous sont attribués gracieusement par la puissance publique, qui s'appelle l'ARCOM en l'occurrence, en échange de la signature d'une charte ou d'un contrat qui spécifie notamment un certain nombre de règles. Et par exemple, il y a une des règles qui a été fixée dès le début, c'est qu'il est interdit d'avoir une chaîne d'opinion. En France, ce n'est pas possible d'avoir une chaîne TNT d'opinion. Toutes les chaînes qui font de l'information ont l'obligation d'avoir un traitement pluraliste de l'information. Ça va encore plus loin en période de campagne électorale, puisque comme vous ne pouvez diffuser que si il vous a été attribué un canal, les candidats aux élections ne peuvent pas créer leur propre canal pour s'exprimer et parler à la population. C'est interdit. Vous ne pouvez pas demain, même avec beaucoup d'argent, créer votre chaîne de télé. Non, vous n'avez pas de canal qui vous a été attribué. Vous n'avez pas de bande FM, vous ne pouvez pas créer votre radio. Donc, la conclusion, c'est qu'à l'intérieur du spectre des différentes chaînes de télé qui existent, il y a une obligation de respect du temps de parole. C'est quelque chose qui vient contrebalancer le fait que les candidats malheureux ne peuvent pas créer leur propre chaîne de télévision. Ce qui est très différent d'Internet et de la presse écrite. Internet et la presse écrite, vous n'avez rien à demander à l'État pour créer une chaîne Twitch ou une chaîne YouTube, vous n'avez rien à demander à l'État pour créer un journal papier, vous pouvez l'imprimer. Et donc, il n'y a pas de temps d'antenne, il n'y a pas de temps de parole sur Internet et dans la presse écrite. Voilà pour ce petit point de pédagogie rapide. Et ça va dans ton sens, Latifa, de dire que là, l'État, la puissance publique, l'ARCOM, est pour la première fois à ce niveau-là, tabassé par un acteur privé pour des raisons politiques. Il y avait d'autres histoires par le passé, il y avait la grande aventure Canal+, etc. Mais là, c'est pour des raisons politiques. On a un empire médiatique d'extrême droite au cœur du système, alors que c'est censé ne pas être possible. Pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas ?
Ça, c'est la bonne question. Il a dit quelquefois, Vincent Bolloré, lors de son audition, il a rappelé, entre guillemets, subtilement, que le groupe Canal, c'est un ensemble, et si vous nous enlevez un pilier, il va être complètement déstabilisé, et en rappelant en dessous que Canal est le premier financeur du cinéma français. Donc, il y a déjà tout
ça,
un
aspect. Toujours fait ça. Ce qui n'est pas faux, en plus.
Et ça, c'est tout un aspect, finalement, économique. Et en plus, où il dit, voilà, si vous enlevez, c'est vraiment, ça faisait très, en plus, caprice, si vous enlevez
une chaîne, bah, c'est tout qui s'effondre.
Mais c'est dommage parce qu'en plus, c'est ses chaînes déficitaires. On lui enlèverait des chaînes déficitaires, donc c'est pas grave. Ça irait bien pour le groupe Canal.
Voilà, c'est un ensemble.
Non, mais il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule.
C'est ce que je disais depuis le départ.
Ouais, ouais. Mais ça montre un autre truc, c'est que je pense que, enfin, je pense, c'est assez évident, pendant l'audition et avant et après l'audition, Danouna notamment, de Bolloré aussi, les députés RN sont venus lui faire le baise-main. Et puis, il fallait voir aussi la déférence de certains députés LREM, pas tous. Je pense qu'il y a un député Modem aussi, dont j'ai oublié le nom, qui lui était un peu acerbe. Mais Quentin Bataillon, mais surtout Carl Olive, le fameux Carl Olive.
Carl Olive.
Qui a complètement joué le jeu de la stratégie Bolloré. Donc, je pense que chez la majorité, on est divisé sur cette question. Les députés sont divisés. Et je pense aussi que Macron a tâtonné. Il a tâtonné. Est-ce que je laisse mes ministres aller dans le JDD repris par Bolloré ou non ?
Macron et Bolloré se détestent.
Oui, mais je pense qu'il ne veut pas déclencher une guerre ouverte. Ouais. Et je pense que si les canaux ne sont pas réattribués, c'est le début de la guerre ouverte. Et Macron n'a pas envie de ça.
Admettons que les canaux TNT de C8 et de CNews ne soient pas renouvelés. Est-ce que ça changerait grand-chose vu que maintenant il y a les chaînes sur les box, sur Internet, etc.
Bah oui, ça change tout.
Franchement, oui, je pense que oui. Hein.
Après, il y a quand même un précédent, c'est Rucha Today.
Oui.
Rucha Today a disparu. Mmh. Et là, pour le coup, faut reconnaître que Rucha Today, même sur l'espace numérique, on les voit plus. Mmh. Enfin, ça a vraiment, pour le coup, disparu. Est-ce que ça pourrait être aussi efficace avec C8 et CNews?
Oui. Des plateformes, ça marche.
Oui, de toute façon, même. Et puis en plus, Bolloré l'a dit, oui, de toute façon, on s'adaptera, même si ça arrive, on trouvera des solutions, etc. Donc, il ne compte pas disparaître comme ça. Mais en fait, c'est juste l'impact aussi qu'a cette chaîne et qu'ont ces chaînes sur le reste du paysage audiovisuel français. Mmh. C'est-à-dire que, enfin, quand on voit, il y a des invités qu'on voit sur BFM qu'on n'aurait pas vu à une autre période, et c'est parce qu'il y a beaucoup plus de représentants, à dire de l'extrême droite, qui sont invités. On voit que ça fait du buzz, que ça marche, donc on les invite dans des logiques purement économiques parfois, pas toujours de positionnement politique. Mais voilà, c'est aussi ça en fait dont on se rend moins compte, c'est ce que ça diffuse partout, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Et puis il faut savoir que la télévision, c'est pas comme je sais pas, un journal papier, etc. Vous achetez un journal papier, vous le laissez traîner chez vous, vous l'avez acheté. C'est une volonté, vous l'avez là, vos enfants peuvent l'avoir et tout. La télé, on est là à zapper. Il y a des gens qui, il y a des enfants qui sont confrontés à des trucs sur des canaux facilement accessibles.
Et des vieux aussi.
Et des vieux.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit stop, regardez la télé. Ouais, alors pour nous, facile à dire. Moi, je regarde plus la télé depuis des années. Je vis sur Internet, tout va bien pour moi. La télévision reste le média numéro 1 en France et de très très loin.
Et moi, j'adore la télé, par exemple.
De masse, c'est massif. Toi, t'adores la télé.
Moi, j'adore la télé. J'ai grandi avec la télé même. Et
alors,
avec
par contre, la télé va crever à terme.
Mais oui. Enfin, je pense pas que ce soit la solution. Toujours ce truc.
Non, je pense pas. Et Usul, tu plaisantais sur les vieux. La télévision, l'âge moyen du téléspectateur français grandit d'un an chaque année. Mmh. Donc, ça dit tout ce que vous avez besoin de comprendre.
Et il y a un droitard dans le chat qui dit la gauche voulait interdire tout ce à quoi vous êtes pas d'accord.
C'est vrai, ça c'est un peu mélanchoniste comme.
Non, parce que en fait là le problème c'est qu'en fait on peut objectiver tous les manquements de C8 et CNews. C'est-à-dire que il y a appel à la haine, appel à la discrimination, etc.
C'est pas des
avec
opinions.
Plus d'une trentaine de rappels à l'ordre de l'ARCOM. Au bout d'un moment, c'est pas dans notre tête, et c'est qu'ils ont en effet outrepassé leurs droits et la charte qu'ils s'étaient engagés à respecter normalement à la base. Donc là, il y a objectivement de bonnes raisons de leur dire stop, ciao en fait.
Et au-delà de l'aspect administratif, il y a même des condamnations pénales. Enfin, Éric Zemmour a été condamné pour ses propos sur l'immigrant. Il a été condamné pour des propos homophobes au moment des débats sur la PMA, etc. Donc oui, au-delà de l'aspect administratif, il y a aussi des condamnations pénales qui posent problème.
Non mais moi, enfin même si CNews et C8 disparaissent de la TNT, enfin c'est pas comme si, et Bolloré l'a dit, enfin ils passeraient par d'autres canaux, donc très certainement ils auront une chaîne YouTube, ils seront sur Twitch peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas leurs idées passeront autrement. Mais là il y a un cadre clair, c'est il faut être pluraliste, vous êtes pas pluraliste, bah fin en fait.
Puisqu'on parle de milliardaires et de médias, il s'est passé quelque chose. Le groupe CMA-CGM, dirigé par le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, vient de racheter la filiale média d'Altice pour 1,55 milliard d'euros. Ça veut dire quoi, la filiale média d'Altice ?
C'est-à-dire Drahi.
C'est ça, c'est Drahi, c'est BFM TV, entre autres. BFM TV vient de changer de main, c'est donc le milliardaire Rodolphe Saadé qui avait lancé en septembre dernier la Tribune Dimanche pour concurrencer le JDD. Après la nomination honteuse à la tête du JDD de Geoffroy Lejeune, Rodolphe Saadé avait contre-attaqué parce qu'il était à la tête de la Tribune. Il a dit « moi je vais créer la Tribune Dimanche, comme ça, ça donnera autre chose que l'extrême droite dans la presse du dimanche ». À quoi est-ce qu'il joue Rodolphe Saadé là ? Il essaye lui aussi d'être un contre-Bolloré ?
Contre Bolloré, je sais pas, mais nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est tiens, super, un autre milliardaire, enfin, qu'on lui fasse confiance à celui-là. CMA-CGM, c'est un énorme groupe de transporteurs maritimes. Bon, voilà, et il y a déjà, je crois qu'il y a déjà eu des fuites qui racontaient, où on leur a posé la question, je sais plus à qui c'était, de « et s'il y a une embrouille avec CMA-CGM, est-ce que vous en parlerez sur vos antennes ?» Et la réponse a été non, du coup non. Mais en même temps, c'était pareil avec Bouygues et TF1. Quand il y avait des retards sur les chantiers de Bouygues, de Fessenheim notamment, on n'en parlait pas sur TF1 parce que c'était Bouygues. Donc, faut, je pense, va avoir une. Je sais pas. Rodolphe Saadé, je le connais pas. J'ai pas bu un coup avec lui. Je peux pas dire.
Est-ce que tu crois, Usul, au mythe du milliardaire de gauche?
Non. Non.
Genre Aniel Berger-Pigas qui essaye tant bien que mal de faire contrebalancer à l'extrême droite.
Non, je suis pour l'indépendance. Je suis pour l'indépendance des médias papier. Et puis il faudrait peut-être trouver un modèle aussi où les médias audiovisuels qui demandent beaucoup de pognon l'audiovisuel, trouvent aussi des solutions d'indépendance. On n'y est pas du tout. Hein. Mais pour le papier, il y a des exemples. Ouest France n'est pas possédé par un milliardaire. Le Canard Enchaîné, ça marche très bien. Mediapart, ça marche très bien. Blast, il n'y a pas de milliardaire, etc. etc.
À la télé, on n'a pas encore trouvé le contre-modèle, je suis d'accord avec toi. Sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent, et ça, c'est chouette. D'ailleurs, on est une proposition, nous, Backseat, mais on n'est qu'une émission, on n'est pas une chaîne télé 24-24. Le Média est devenu une chaîne télé 24-24, d'ailleurs.
Donc, sur une box.
En l'occurrence, sur la box. Mais, donc, je suis d'accord avec toi. Moi, j'espère et j'ai envie de participer à ce renouvellement de l'audiovisuel en disant que non, il ne faut pas avoir d'énormes sabots et d'énormes moyens venus d'un milliardaire pour créer des projets audiovisuels. Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne notre émission avant de recevoir Adèle et nos invités politiques. Je vous propose qu'on passe le jeu à la con. Ça vous dit ?
Allez.
Allez, c'est parti pour le jeu à la con. Alors, chers amis, le jeu à la con cette semaine, la régie, si vous pouvez éteindre les écrans qui sont devant moi, ce serait absolument parfait. Vous allez devoir... Tiens, ça c'est pour Lorraine. Ça c'est pour toi, Latifa.
Merci.
Et ça c'est pour Usul. Vous allez devoir deviner votre personnage. Regardez les trois personnages des trois autres joueurs et dites-moi si vous trouvez leurs points communs.
Bah, j'en ai que deux, moi.
Ah bah, c'est normal que t'en aies que deux.
À deux, c'est dur de trouver les points communs.
C'est vrai.
Quatre, c'est plus. Oh putain, j'ai pas vu, mais je me suis retourné.
Ah non, t'en retournes pas.
Ah ouais, non, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais je crois que j'ai vu en fait.
Ah
merde.
Attends, on verra.
C'est parce que fallait mettre pile. Ouais, bah bon. Bon allez, mais je crois
c'est
que
pas
j'ai
grave.
Vu.
C'est en lien avec la thématique de notre émission cette semaine.
Ah oui, l'Europe, tout ça là.
Ouais.
Ouais. Hey. Ok. Est-ce que j'ai été candidat aux européennes?
Oui.
Voilà. Bon, ça c'est le point commun, je pense.
Ils ont tous été députés européens.
Députés européens.
Ok.
Est-ce que je suis un homme?
Non, tu n'es pas un homme.
D'accord.
Est-ce que je suis un homme?
Oui, tu es un homme.
Je suis en vie?
Malheureusement, non.
Ah.
Mais tu l'as été longtemps.
Un peu trop longtemps.
T'as poussé fort.
Ça dépend.
C'est une question de point de vue, mais t'as poussé loin.
Bon, est-ce que je suis un homme?
Lorraine, tu es un homme.
Ok. Est-ce que je suis de gauche?
Alors.
Oui,
Oui,
mais bon, voilà quoi.
Dans une zone grise.
Centre-gauche.
Centre-gauche.
Donc au Parlement européen.
Je vous expliquerai après.
La dernière fois, j'étais Jacques Chirac, donc bon, lui, c'est fait.
Ouais, ça s'est fait.
Mais.
Est-ce que je suis de gauche?
Non.
Merde.
Et moi, je suis de gauche?
Non.
De gauche. Ok.
Est-ce que je suis d'extrême droite?
Non.
Donc juste droitard, quoi.
Ouais.
Normal.
Et moi, je suis
après, c'est grand la droitardise. Hein. La droitardie.
Est-ce que je suis du PS? J'ai été au PS?
Alors non, pas exactement au PS.
Ok. Pas exactement au PS.
Après, est-ce que tu connais le parti dans lequel t'as été? Je sais pas. C'est pas le plus ouf.
Est-ce que j'envoie des SMS?
Oui.
Ah, je suis Rachida Dati.
Bravo. Bravo. Rachida Dati, qui a été députée européenne de 2009 à 2019.
Est-ce que j'ai été président?
Oui.
Ah oui, d'accord, bah VGE.
Bravo la TIFA, ouais. Valérie Giscard d'Estaing. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il a été député européen? Personne ne le sait. Hein.
À la fin?
Ouais, à la fin, ouais. Il avait entre-temps été président de région, quand ça ne voulait rien dire d'être président de région.
À la fin de quoi? De sa vie?
Non, à la fin de sa carrière politique.
Ah, ok, d'accord.
Non, parce qu'après, il a été au Conseil Consulte et tout. Non, non, il était VGE, c'était de 1989 à 1993. Mm. 4 ans, je ne sais pas.
Je t'ai même pas
dit. Je m'en souviens. Et là, c'est la position assurante où il n'y a plus que toi.
Ouais, ok. Voilà. Donc je suis un homme, je suis de centre-gauche. Je ne suis pas OPS.
Tu étais.
J'ai été OPS.
Non, tu... Non. Pas... Tu parles au présent alors qu'il faudrait parler au passé.
Ah, donc déjà, je suis mort.
Absolument. Ouais. Mais j'ai le regret de te l'annoncer.
Ah, dommage. Je suis mort. J'étais au PS et
alors,
je suis mort.
Comme
quand t'étais pas au PS, t'étais pas au PS. Centre gauche, mais pas au PS. Il y a d'autres partis.
Mais je pense que.
Mais après, on le connaît pas tellement.
Il est dur, hein. Franchement, il est dur.
On le connaît pas tellement à cause de son parti.
Non, c'est ça, son parti, c'est pas le plus célèbre chez lui. Même son passage au Parlement européen, c'est pas célèbre chez lui. Clairement, il a été célébrissime en France pour des histoires de politique et pour des histoires de business.
Mais il s'était présenté aux élections européennes.
Ouais. Contre Le Pen.
Contre Le Pen. Poussé par, Mitterrand à l'époque.
Par Mitterrand.
Poussé par Mitterrand.
Ouais. Ouais. Un adversaire du Front National à l'époque.
Quand je dis que tu as été célèbre dans le business, ça n'a pas toujours été légal.
Et oui, un homme d'affaires aussi.
Un homme d'affaires. Des affaires troubles.
Du soi-disant centre-gauche, homme d'affaires. Ouais.
Bah, centre, alors, c'est le côté centre.
Il
n'a
pas laissé un bon souvenir au centre-gauche. Hein. Je veux dire, personne ne se souvient de lui. On se dit, ah, c'était génial et tout. Non, non, il a laissé un mauvais souvenir à peu près tout le monde. Hein.
Donc, il a été dans des grosses affaires. Des bonnes
affaires. Oula, il a fait la une des JT.
Oh là là, des trucs de fou.
Moi, j'ai grandi avec ça. Hein.
Ah oui. On pourrait en faire une série Netflix, quoi.
Alors. Parce que Mitterrand. Moi, j'étais pas née, hein.
Ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider si je te dis que ça fait 3 semaines de suite qu'il tombe dans le jeu à la con.
Ah ouais?
Ouais. Ça fait 3 semaines.
Pourquoi vous le mettez tout le
temps? Parce qu'à chaque fois, il est dans le thème. À chaque fois.
Ah, mais faut arrêter.
Dans le thème. Non,
mais c'est trop drôle. La prochaine fois, on va se demander c'est qui.
Jean Covici?
Non, pas Jean Covici.
Non.
On a dit célébrissime.
Affaire politico-financière dans les années 90. Prison, il a fait de la tôle.
Ah ouais, prison. Ouais.
DSK?
Non, parce que lui, il a pas fait de tôle.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Il y a l'affaire de l'AMNEF, mais bon, on a oublié.
Mais oh, c'est excusé.
Il a fait de la tôle.
Ouais, il a fait de la tôle. C'était un richissime homme d'affaires en prison. Hein. Ça a fait la une. Hein.
En jogging Adidas, certainement.
Ouais,
je crois que quand tu vas me dire, je vais te dire ah.
Je crois que dans sa cellule de prison, il regardait les matchs de l'OM, tu vois.
Dans sa cellule de prison, regardez les matchs.
Il devait avoir un compte au Crédit Lyonnais.
Ah
mon Dieu.
Non, franchement, je vois pas.
Vous avez...
Je peux donner ma langue au chaud ou pas?
C'est des petits week-ends à Valenciennes. Avec du liquide.
Mais vraiment pas. Tu vas trouver tout de suite, si je te le dis, c'est Bernard Tapie.
Ouais, ok, d'accord. Je me suis dit, quand on va me le dire, je vais me dire oui, ok. Mais oui, j'aurais cherché longtemps. Oui. Hein.
Il a été député européen de 1994 à 1997.
Mais c'est tellement années 90, Tapie.
Ouais.
Ah, mais Tapie, mais quand je te dis que j'ai grandi avec ça, je ne rigole pas.
Ah, ouais.
Les premières affaires, pourquoi il y a des policiers, pourquoi il y a des gyrophares, etc. Mon père m'expliquait. Ils vont arrêter un monsieur parce que machin, et c'était Bernard Tapie qui se faisait.
Okay.
Et c'était les affaires judiciaires dans tous les palais de justice.
Moi, j'ai 10 ans de moins, on m'a pas raconté ça.
Mais bon. Nous, on le voyait au journal tout le temps, quoi.
Ouais,
il y avait toujours des trucs.
Il était une icône des années fric dans les années 80, et donc le parti de centre-gauche en question, c'est le Parti radical de gauche, le PRG.
Mmh. Ok, voilà. Ok.
Chers
comme
amis,
Taubira.
Avant de.
Voilà.
Ouais, centre-gauche, oui, je vois ce que vous vouliez dire en vrai.
Vous voulez dire centre-gauche? C'est centre-gauche.
Avant d'enchaîner, les amis, je voudrais vous rappeler que dans moins d'une semaine sort Backseat, le film. Attention, ce n'est pas un making-of de l'émission Backseat, c'est bel et bien un documentaire qui retrace l'année 2023 à travers les yeux de l'émission Backseat et de celles et ceux qui ont fait cette belle émission. La diffusion aura lieu le 26 mars prochain au MK2 Bibliothèque à Paris. Vous pouvez prendre vos places sur le site d'MK2. Il reste une quarantaine de places pour remplir la salle. Si vous faites partie des donateurs de Backseat, vous avez reçu par mail un code promo pour que ça vous coûte un petit peu moins cher. Et sinon, après le film, on se donne rendez-vous dans un bar boulevard de la Bastille qui s'appelle Le Gourou, qui nous accueille. On l'a réservé rien que pour vous, pour passer un petit peu de temps ensemble. On pourra manger un burger spécial Backseat, on pourra boire des cocktails, des bières et du vin, évidemment.